Radio France Internationale, il est 21h30 à Paris, 19h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Manon, bonsoir à tous. À la une, la Côte d'Ivoire, à moins de 6 mois de l'élection présidentielle, Tidiane Thiam démissionne de la présidence du PDCI, le principal parti d'opposition. Mais il devrait se faire réélire dès mercredi lors d'un congrès extraordinaire. Plus d'une centaine de morts et de nombreux disparus après des inondations qui ont dévasté le village de Kazaba dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités locales dénoncent la déforestation massive de la région. Et puis l'économie à Lomé, au Togo, la dette africaine au centre d'un sommet de l'Union africaine. Et c'est une première. En Côte d'Ivoire, après la démission de Tidiane Thiam à la tête du PDCI, son parti, qui était réuni d'urgence en bureau politique, a donc décidé d'organiser un congrès extraordinaire mercredi. Il s'agit d'élire un nouveau président, tout cela à moins de 6 mois de l'élection présidentielle à Abidjan, Binta Diagne.
Cette réunion d'urgence était présidée par le doyen d'âge des vice-présidents, Ernest Kumo Mobio. Son intérim est courte puisque le bureau politique décide d'organiser un congrès extraordinaire dans 2 jours. Principal objectif de ce congrès, élire un nouveau président. Ce congrès va se tenir de manière éclatée dans 45 sites du pays. Un appel à candidature a été lancé. Les candidats ont jusqu'à demain 18h pour déposer leur dossier. Le congrès est ouvert à tous les militants, assure le député Olivier Akoto. Mais dans les faits, sauf surprise, Tidiane Thiam part favori. Cette décision de quitter son poste intervient alors qu'un procès est toujours en cours contre lui. Une cadre du PDCI remet notamment en question la légalité de son élection à la tête du PDCI en décembre 2023, Thiam risque d'être destitué de son poste. Annoncer sa démission avant l'issue de ce procès est une manière d'atténuer l'impact de cette procédure. Puisqu'il renonce à son mandat, le juge n'a plus de raison de le déclarer illégal, estime un juriste. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
En bref, au Libéria, le président de la Chambre des représentants démissionne, une démission après un bras de fer de plusieurs mois avec une majorité d'élus qu'il accuse notamment de corruption. Les inondations dramatiques qui ont frappé l'est de la République démocratique du Congo sur les rives du lac Tanganyika, un bilan très lourd, il dépasse une centaine de morts, des dizaines de disparus dans la localité de Kasaba après que la rivière du même nom a débordé en raison principalement de pluies torrentielles et de l'impossibilité pour cette eau de s'infiltrer dans les sols en raison des activités humaines. Simon Rosé.
Les pluies ont été intenses et elles ont pu ruisseler sur ces collines fragilisées par la coupe d'arbres. Stéphano Moriscaya travaille pour la coordination urbaine et le développement durable de la ville d'Ouvira.
Dans la province de Tanganyika, il y a certains endroits où il y a beaucoup d'arbres en abondance. Alors, ils essaient de couper ça pour former des prises et c'est pourquoi ils doivent aussi être conscients par rapport aux effets qui sont produits actuellement. On met les sols directement en danger. Les sols n'ont plus une protection. Et cela vraiment peut provoquer au moins à 90% des inondations qu'on observe partout dans ces milieux.
Même constat pour Sami Kalonji, l'administrateur du territoire de Fidji. Le rappelle, les arbres constituent la meilleure protection contre les inondations.
Nous devons comprendre que les arbres que nous avons constituent une meilleure protection pour tout le monde. Voilà aujourd'hui ce qui nous arrive. C'est aussi la conséquence de notre négligence. J'interpelle toute ma population de Fizi à comprendre que planter un arbre est un geste de grandeur, un geste qui va sauver des vies.
Un message qu'il entend marteler car ces catastrophes se répètent et vont s'amplifier. On estime que près de 120 millions d'Africains vont ainsi être exposés à des événements météorologiques extrêmes d'ici 5 ans en raison du réchauffement climatique.
Simon Rosé sur RFI, il est 21h34 à Paris. Direction la République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a achevé aujourd'hui une mission de 4 jours en Ouganda. Il a participé à une conférence interparlementaire africaine, mais il est venu également avec une mission politique. Vital Kamerhe, porteur d'un message spécial du président Félix Tshisekedi pour le président ougandais Yoweri Museveni, un message centré sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Des échanges qui s'inscrivent dans une série de déplacements qui ont commencé en novembre. Et l'objectif est de renforcer la coopération militaire et économique entre les deux pays. Patient Ligodi.
Alors que Kinshasa négocie avec le Rwanda et les États-Unis des accords sur la paix et le commerce. Les autorités congolaises tiennent à préserver un lien solide avec Kampala. Contactés, les émissaires congolais assurent que le président ougandais n'avait pas besoin d'être rassuré. Au contraire, Yoweri Museveni a lui-même insisté sur la nécessité d'un climat apaisé dans la région, estimant que les tensions actuelles nuisent aussi aux intérêts de son pays. Selon nos informations, Museveni met l'accent non seulement sur la sécurité aux frontières, mais aussi dans les zones où l'Ouganda a des intérêts économiques. Dans ce contexte, la coopération entre la RDC et l'Ouganda se renforce et l'opération conjointe entre leurs armées, initialement centrée sur les ADF, cible désormais également la CODECO et d'autres groupes armés actifs au Nord Kivu et à Ituri. Sur le plan économique, trois axes routiers sont en cours de construction entre les deux pays. Ils collaborent aussi à travers Punia KCC Mining, une co-entreprise lancée en 2020 entre la société congolaise Sakima et l'entreprise ougandaise Dot Service. Cette structure ambitionne de devenir un leader mondial dans l'exploitation des minerais dits 3T, étain, tungstène et tantale. Et autre dossier sensible, le projet d'exploitation du pétrole du lac Albert que Kampala souhaite davantage sécuriser.
L'ouverture à Lomé, au Togo, d'un sommet de l'Union africaine consacré à la dette, et c'est une première. Le président de cette commission qui tient cette réunion a d'autres idées pour justement résister à l'endettement en Afrique. On écoute, il est au Simon, au micro de Peter Sassou Dogbé.
Les questions liées au climat, par exemple, des questions qui ont lourdement endetté nos pays, les inondations ici, la sécheresse là, et puis il faut aussi se le dire, les questions sécuritaires obligent nos États à devoir consacrer une part de plus en plus importante de leur budget, donc de la richesse nationale, à assurer leur défense. Et donc voilà les raisons pour lesquelles nous nous trouvons dans cette situation. Et je rappelle aussi que nos pays sont des pays qui sont des faits en forte croissance, où les populations croissent de manière importante. Je rappelle que simplement pour l'Afrique de l'Ouest, les populations doublent tous les 25 ans. Et on sera aussi peuplé que les États-Unis dans 25 ans. Donc vous avez une pression démographique très forte, vous avez une croissance forte et une réalité effectivement de l'endettement qui parfois peut être préoccupante. Mais j'ai rappelé que nous avons les moyens technique de pouvoir faire face à ce niveau d'endettement lorsqu'on compare à d'autres pays occidentaux notamment, n'est pas un niveau aussi élevé que cela.
Voilà, Serge Ekoué, le président de la Banque Ouest Africaine de Développement, la BOAD, qui estime donc qu'il existe des moyens pour surmonter l'endettement en Afrique. Il répondait aux questions de Peter Sassou Dogbé. Au Togo, s'est ouvert ce matin la conférence de l'UA sur la dette africaine. Pendant 3 jours, les représentants des pays africains vont tenter de se mettre d'accord pour enrayer la crise de cette dette en Afrique, mais aussi faire entendre leur voix auprès de la communauté des bailleurs. Et pendant ce temps, à Abidjan, s'est ouvert la 12e édition de l'Africa CEO Forum. Près de 3000 participants réunis pour repenser les relations entre les secteurs privés et publics, et devant un parterre de chefs d'État et de patrons venus de tout le continent, le président ivoirien Alassane Ouattara a lancé les débats en reconnaissant les difficultés à développer les échanges entre les États africains. Explication, Julien Clémenceau.
Le constat du chef d'État ivoirien est franc. Ces derniers mois, le projet de SLECAF n'avance plus et il faut lui redonner une impulsion, sans dire si c'est aux politiques de reprendre la main.
Évidemment, afin d'augmenter la part des économies africaines dans la création de valeur ajoutée au niveau mondial, nous devons œuvrer au renforcement des échanges intra-africains. Sur ce point, nous devons faire plus de progrès. La SLECAF a bien démarré, mais malheureusement, les résultats sont encore faibles.
La première journée du forum a aussi été marquée par le panel réunissant les présidents mauritaniens, sud-africains et rwandais. Devant une salle pleine, Paul Kagame et Cyril Ramaphosa ont notamment insisté ensemble sur le besoin du continent d'élaborer ses propres solutions au-delà des influences extérieures. Un échange pendant lequel les deux chefs d'État ont directement évoqué le conflit actuellement en cours dans l'est de la RDC, appelant à poursuivre les discussions pour reconstruire la paix. Julien Clémenceau, Abidjan, RFI.
RFI, c'est la fin de cette deuxième édition d'Afrique Soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Et toute l'actualité, vous le savez, c'est à retrouver sur notre site internet www.rfi.fr. Il est 21h40 ici à Paris, 19h40 en temps universel. Bonne soirée.